L'histoire de Joseph prend tous les chapitres 37 à 50 du livre de la Genèse, et c'est évidemment une des plus belles histoires de l'Ancien Testament. Joseph donc aura deux fils, l'aîné Ménassé et le second Éphraïm, qui lui naîtront en Égypte. Il y a là une histoire tout à fait passionnante à propos de ces deux enfants, Ménassé et Éphraïm, parce qu'il y a en particulier quelque chose qui est dit à propos du sens de leur nom. Et ça, c'est dit dès sa naissance. En effet, en Genèse 41, on nous dit « Il naquit à Joseph deux fils. Joseph donna au premier-né le nom de Ménassé, ce qui veut dire l'oubli. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toute peine et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, ce qui veut dire la fructification. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon humiliation. » Et c'est vrai que Ménassé, donc l'aîné, ça vient d'un verbe nassa qui veut dire oublier, priver. Et Joseph nomme son premier fils oubli. Sans doute qu'il veut montrer là que, certes, Joseph a souffert énormément de la trahison de ses frères, d'être envoyé ensuite en prison en Égypte, d'avoir été abandonné. Et il veut oublier toute cette histoire, toute cette déchirure avec ses frères, son exil, sa prison. Et il a le désir de tourner la page, en quelque sorte. Et Éphraïm, ça vient de l'hébreu Ephrata, ou Ephra, qui veut dire « lieu de la fécondité ». Et lui-même s'est porté sur le mot « para », qui veut dire « porter du fruit, être fructueux ». Et donc Joseph nomme son deuxième fils « fécondité ». Le premier est tourné vers le passé et le second est tourné vers l'avenir. Alors qu'il faille le premier pour accéder au second, on le comprend. Certainement faut-il parfois oublier ce qui est en arrière pour pouvoir aller de l'avant. Et là-dessus, la Bible est très univoque. Sans cesse, il y a des passages comme ça dans le Nouveau Testament, dans la prédication de l'Évangile, qui dit qu'il faut oublier le passé pour aller de l'avant, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est ce qui est devant, et ce n'est pas le passé. Comme disait, je ne sais plus quel humoriste, il disait « l'avenir m'intéresse plus que le passé, parce que l'avenir, c'est là que j'ai prévu de m'installer ». Effectivement, on trouve dans l'Évangile des textes comme ça, parfois sont même très radicaux. Vous savez, comme ce disciple qui dit à Jésus « Laisse-moi d'abord ensevelir mon Père » et Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir les morts ». Et donc, effectivement, il faut aller de l'avant et puis les pères, eh ben, écoutez, laissez-les tranquilles, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe devant. Et un autre endroit, en Marc 13, Jésus dit « Que celui qui est sur la terrasse ne descende pas, qu'il ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison et que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière » pour prendre son manteau. Et donc oui, il ne faut pas se tourner vers l'arrière, mais toujours vers l'avant, cela on le comprend. Et surtout peut-être, faut-il être capable d'oublier les épreuves passées, d'oublier les ressentiments, et cela, Joseph a bien raison de le dire, c'est essentiel pour pouvoir aller de l'avant et porter du fruit. Et sur ce point, un bon nombre de philosophes comme Paul Ricoeur, aujourd'hui, enfin, tous ces derniers temps, se sont un petit peu opposés à cette mode assez insupportable de ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Et Ricoeur dit « le devoir de mémoire, c'est bien, mais il y a aussi parfois un devoir d'oubli. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas sans arrêt se rappeler les problèmes passés. On ne peut pas vivre sans arrêt en se rappelant ses fautes, en se rappelant ses culpabilités, ni même vivre en paix avec son frère ou sa sœur, en lui rappelant sans arrêt qu'il est coupable et qu'il a fait ceci et qu'il a fait cela. Ce passé n'est qu'une charge impossible, je dirais, à la relation. Et il faut être capable d'oublier le passé. Et je dirais même dans la relation à l'autre, eh bien, ou dans la relation même quotidienne, je dirais, dans la vie de couple, il y a des choses qu'il faut oublier. Il ne faut pas rester sans arrêt sur un tel jour, telle heure, tu m'as fait ci, voilà. Oubliez ça. Oubliez. Sinon, vous n'avancerez pas. On ne peut pas tenir un cahier avec tout ce que l'autre nous a fait jour après jour. Il faut oublier pour aller de l'avant. Il faut en effet oublier de l'avant, car sinon nos souvenirs risquent de se transformer en regrets, si c'était des choses positives, ce qui n'est pas très agréable, ou en rancœur. En tout cas, je pense effectivement que Joseph a raison. Il y a deux choses essentielles pour être une nation nombreuse, comme Dieu le lui a promis. C'est Manassé et Éphraïm, oublier et porter du fruit. Alors c'est vrai qu'il faut savoir parfois enlever certaines choses de sa vie. Et ça, on le trouve aussi dans l'Évangile, comme il dit en Matthieu 18, « Malheur au monde à ce qui fait chuter ». Il est inévitable qu'il y ait des choses qui vous fassent chuter, mais malheur à celui par qui elles se produisent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer manchot ou boiteux que d'avoir deux pieds ou deux mains et jeter dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie borgne que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Évidemment, Jésus ne dit pas qu'il faille s'arracher son œil ou se couper un bras, mais ça veut dire parfois il y a des choses qu'on a vues, et bien faites comme si vous ne les aviez pas vues. Et il y a des choses que vous avez faites ou que l'autre a fait, et faites comme si cela n'avait pas eu lieu. Alors certes, on s'ampute de quelque chose, je dirais, mais comme dit Jésus, il vaut mieux amputer sa vie de certaines choses et arriver à avancer droit, plutôt que d'essayer de trimballer des sacs de pierre et de s'écrouler par terre. Et finalement, c'est la même chose dans l'histoire de Jacob, puisqu'on est dans l'Ancien Testament. Vous savez que Jacob va combattre avec l'ange, en Genèse 32, 29, et qu'il va sortir béni, mais boiteux. Il va être blessé par l'ange. Et tiens, justement, Jacob sort boiteux. On nous dit qu'il est blessé au tendon de la hanche, qui est d'ailleurs celui qui me fait mal. Et ce tendon de la hanche s'appelle Nassa. C'est le même verbe que Manassé, le même verbe que oublier tout à l'heure. C'est-à-dire que, justement, l'oubli, c'est l'histoire du tendon de la hanche de Jacob, celui auquel il a été blessé avec l'ange. Et donc, il faut retrancher de sa vie ce qui peut nous faire chuter. Et du coup, on sort de la vie, certes, peut-être un peu boiteux, mais béni. Parce que c'est vrai que l'idéal, ce serait d'être capable de tout maîtriser, de tout garder en tête et de savoir pardonner. Parce que le pardon n'est pas forcément l'oubli. Enfin, je dirais le pardon, ça peut être de l'oubli pour les petites choses. Puis il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Et là, il y a un travail de pardon qui est plus compliqué. Mais en tout cas, c'est évidemment lié. Et donc là, vous voyez, effectivement, Joseph coupe une partie de son histoire. Il ne veut plus y penser pour aller à autre chose, et il dit « Maintenant j'avance, peut-être un peu boiteux, mais béni. » Et puis, oublier ce mal qui nous a été fait, peut-être que cette histoire de Jacob avec l'ange nous dit qu'il faut aussi le faire avec la plus grande humilité. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne faut pas forcément tout oublier, enfin, ou peut-être que pour être capable d'oublier le mal que les autres nous ont fait, nous devons nous souvenir que, comme Jacob, nous sommes boiteux ou que nous sommes nous-mêmes blessés ou imparfaits. Se rappeler de son imperfection, comme Jacob qui était effectivement boiteux de la hanche, se rappeler de son imperfection peut peut-être aussi aider à ne pas être trop dur avec les autres. Et en tout cas, c'est la condition essentielle pour être béni. Je dirais aller de l'avant, mais je dirais pas trop vite. Aller de l'avant comme un boiteux qui sait ses propres faiblesses et qui ne fonce pas non plus la tête baissée. Et cela, ce que je viens de vous dire, je crois, explique, vous savez, cette bénédiction qui est dite là en Genèse 48, où il dit « Tout homme d'Israël bénira ses enfants de cette manière-là ». Et c'est encore comme ça qu'aujourd'hui les pères juifs bénissent toujours leurs enfants au moment de la fête de Kippour, et ils mettent la main sur la tête de leurs enfants et ils disent Yesimcha Elohim ke Ephraim ve hi Manassé, que Dieu te fasse comme Ephraim et comme Manassé. C'est la bénédiction des pères sur leurs enfants qui se fait encore aujourd'hui dans le monde juif. Et pourquoi est-ce que le vœu, c'est que les enfants soient comme Ephraim et Manassé? La première évidence, c'est qu'ils aient de nombreux enfants eux-mêmes, mais évidemment que le monde juif a compris que cette histoire d'Ephraim et Manassé en dit beaucoup plus. Et en particulier, voilà le commentaire qu'en fait Delphine Horviller, qui est rabbin du mouvement juif libéral de France, qui est très attachée à cette histoire. Et elle dit, je la cite, « Puisses-tu ne pas être obsédé par le passé? Puisses-tu être capable d'exister hors de ton lieu d'origine? Puisses-tu savoir que la vie existe même après la tragédie ?» Donc il s'agit de poser le passé à sa juste place, c'est-à-dire derrière, pour que le futur puisse porter du fruit. Mais revenons quand même sur cette histoire d'oublier le passé, parce que faut peut-être pas aller trop vite non plus. En effet, ce texte, je vais vous le dire, a toujours beaucoup ennuyé les commentateurs juifs rabbiniques, parce que certes, Joseph dit qu'il veut oublier toutes les épreuves qu'il a eues, ce qui est très bien, je vous l'ai démontré à l'instant, mais le texte dit aussi que Joseph dit « Je l'appelle Manassé, c'est-à-dire oubli, parce que je veux oublier toute la maison de mon père. » Oublier toute la maison de mon père. Est-ce que c'est bien ça? Et ça n'est pas évident du tout, à un tel point que Calvin, dans son commentaire de la Genèse, est extrêmement sévère à l'égard de Joseph. Et il dit, je vous le cite, voilà ce que dit Calvin, il dit « Voici que Joseph, bien qu'il serve Dieu purement, est surpris par la douceur des honneurs qu'il reçoit, et il a l'esprit tellement obnubilé qu'il n'a même plus la mémoire de la maison de son père, et il se plaît en Égypte. C'était presque se séparer du troupeau de Dieu. À grand-peine, pourrait-on excuser l'oubli de la maison paternelle ?» Et donc là, clairement, Calvin condamne Joseph en disant « Ce type est vraiment odieux, enfin, il fait vraiment là une erreur considérable, ça n'est pas bien. » Vouloir faire un trait sur le passé à cause de ces épreuves risque effectivement de faire tomber dans cette erreur qui consiste de vouloir tout oublier le bien comme le mal. Et ça n'est pas bon, parce que certes il y a des choses à oublier, mais on ne peut pas tout oublier, parce que le passé nous donne quand même des tas de choses absolument essentielles pour vivre. Et nos pères, s'ils nous ont fait du mal, nous ont aussi donné tout ce qu'il faut pour vivre en quelque sorte, et nous ont transmis et donné. Et on ne peut pas faire table rase du passé de cette façon-là. Alors du coup, les commentaires juifs qui essayent de justifier Joseph sont assez ennuyés par cette histoire. Mais ils s'en sortent évidemment parce qu'un bon théologien rabbinique s'en sort toujours. Et il dit qu'en fait, le verbe « nasa », que je vous ai dit signifier « oublier », c'est vrai, a un deuxième sens. « Nasa » a deux sens. Ça veut dire aussi « prêter ». Être créancier dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire être créancier ou débiteur, c'est-à-dire avoir donné quelque chose à quelqu'un ou être redevable de quelqu'un. Et donc menacer veut dire celui qui oublie, mais ça veut dire aussi celui qui se sait débiteur de quelqu'un. Et donc vous voyez qu'on a là une ambiguïté, à la fois oublier et en même temps se souvenir qu'on dépend de ses ancêtres et de ce que l'on a reçu. Et qu'il faut arriver à jouer entre les deux. Alors, je ne sais pas de quelle manière il faut. Donc, je vous ai dit, il faut oublier, mais quand même pas tout. Et il faut se souvenir, mais pas de tout. Et donc, il y a un travail de mémoire extrêmement compliqué à faire. Il faut à la fois savoir ce que l'on doit aux ancêtres et aussi savoir l'oublier pour aller de l'avant. Alors ça, c'est vrai que c'est d'ailleurs un paradoxe dans l'histoire de Joseph, parce qu'il appelle son fils « je veux oublier ». Ça veut dire que chaque fois qu'il voit son fils, il se dit « ah oui, c'est vrai, je dois oublier ». Mais je dois oublier quoi? Eh bien, je dois oublier qu'il y a quelque chose à oublier, et ça, je m'en souviens. C'est-à-dire que appeler son fils « j'oublie », c'est complètement paradoxal. J'oublie, mais je n'oublie pas. J'oublie, mais je me rappelle sans arrêt que je me souviens, en fait. parce qu'on ne peut pas oublier vraiment un passé qui nous a fait du mal. Et donc, vous disais-je, il faut oublier sans oublier, mettre de côté, mais pas amnésie. Il faut oublier certaines choses, cela permet de vivre, tout en sachant ce que l'on a reçu. Et donc, je dirais qu'il n'y a ni un devoir de mémoire, ce qui est une horreur, ni un devoir d'oubli, ce qui n'est pas bon non plus. Il y a un travail de mémoire, peut-être, à faire. Un travail de mémoire. Savoir faire mémoire, mais en sachant oublier, savoir retrouver ses racines sans en être dépendant. Et ça, c'est vrai pour nous, et je dirais aussi que je crois que c'est vrai pour une société, et que notre France, en ce moment, a justement ces difficultés actuelles de savoir de quelle manière elle reste attachée à sa mémoire, à sa culture, à sa tradition, qui est chrétienne, par exemple, mais sans en faire un blocage pour l'avenir. Et se libérer sur l'avenir, ça n'est pas non plus faire table rase totale, je dirais, du passé, et faire comme si la France n'avait jamais eu aucune tradition ou rien de quoi que ce soit qui lui existait, aucune culture, aucun art, aucune foi ou aucun engagement. Il faut arriver à faire ce travail de mémoire, faute de quoi, eh bien, on risque de perdre toute fécondité. Alors, Manassé, donc l'aîné, est absolument essentiel parce qu'il faut être clair sur son passé avant de pouvoir trouver la fécondité. Et c'est pour ça d'ailleurs que Éphraïm, la fécondité donc, vient après Manassé. Et puis je vous ai dit aussi d'ailleurs autre chose, c'est que le texte nous dit lui-même que Éphraïm est lié au mot Ephrata, c'est le même mot. Et le texte nous dit que Ephrata, c'est Jacob qui le rappelle. Jacob dit, tiens, c'est drôle parce que Ephrata, c'est l'endroit où j'ai enterré ma femme, donc la mère de Joseph. Et donc Éphraïm, je vous l'ai dit, c'est l'ambiguïté du souvenir et de l'oubli, c'est-à-dire que un lieu où l'on enterre quelqu'un, c'est aussi très ambigu, c'est à la fois un lieu de mémoire et un lieu d'oubli. C'est-à-dire qu'un cimetière est un mélange entre un lieu de mémoire et un lieu d'oubli. On enterre les gens comme on enterre une vieille histoire et en même temps pour dire qu'on veut s'en souvenir. Donc toujours ce juste équilibre, si vous voulez, entre le passé et le futur. Mais entre le futur et le passé, cela dit, il y a toujours un combat. Un combat qui est compliqué et toute l'histoire de Manassé et d'Éphraïm le montrera. Ils vont sans arrêt se taper dessus tous les deux en fait, ça va être très compliqué. Ils vont se partager à eux seuls un territoire qui sera le territoire de la tribu de Lévi, puisqu'il y a 12 tribus, vous savez, mais il y a 12 territoires donc. Les 12 tribus sont les 12 enfants de Jacob, mais Lévi, qui sont les prêtres, n'a pas de territoire. Donc pour qu'il y ait 12 territoires, Joseph coupe son territoire en deux et ça fait les deux tribus d'Éphraïm et de Manassé. Et les Lévites sont répartis dans tous. Et donc il y aura sans arrêt des conflits entre les deux. Mais ça c'est vrai, c'est intéressant, c'est des conflits entre le passé et les projets. On est toujours tiraillé entre les deux et donc on le sait. Mais donc Manassé, vous disais-je, est l'aîné. Normalement, vous disais-je, il faut régler d'abord le problème du passé pour pouvoir passer à l'avenir. Mais c'est là que la Bible est absolument passionnante. C'est que vous avez entendu dans l'histoire de Genèse 48 qu'elle renverse la situation. Et en effet, lors de la bénédiction de Manassé et d'Éphraïm par Jacob, on nous dit que Joseph présente ses deux fils à Jacob pour qu'il les bénisse dans l'ordre, c'est-à-dire la main droite, qui est celle qui compte, sur Manassé l'aîné et la main gauche sur Éphraïm. Et puis voilà que Joseph, au moment de bénir, croise les mains et du coup met la main droite sur Éphraïm et la main gauche sur Manassé. Alors Joseph proteste, il dit non, c'est pas comme ça mon père qu'il faut faire, il faut que tu bénisses d'abord et en premier avec la main droite Manassé parce que c'est lui l'aîné. Et Jacob répond, je sais mon fils, je sais. Mais en gros, je sais ce que je fais. Et donc, le texte biblique dit bien d'ailleurs que Joseph mit Éphraïm avant Manassé. Le patriarche, donc celui par qui la bénédiction de Dieu se donne, place Éphraïm avant Manassé, il place la fécondité avant l'oubli et il place l'espérance avant le détachement, il place l'avenir avant le passé. Et ça, c'est peut-être la clé de l'affaire. C'est que l'essentiel, avant de se poser trop de questions infinies sur le passé, sur ce que j'oublie, etc. Non, Joseph a raison, Jacob a raison. La première chose, regardez l'avenir. La première question, c'est de donner et c'est de transmettre. La première chose qui compte, c'est ce qui est devant, ce sont vos enfants et vos petits-enfants. Vos principes, eh bien, vous les ajusterez après. Et peut-être même, d'ailleurs, que ce désir de fécondité, cette volonté de se tourner vers l'avenir et vers ce qui vient, est quelque chose qui peut nous aider à nous guérir du passé. Donc, je dirais d'abord la foi et l'espérance, d'abord se tourner vers l'avant, et ça peut nous aider à nous libérer du passé. Mais je vous l'ai dit, on ne peut pas vivre sans passé, ni sans racine, donc il ne s'agit pas de tuer Manassé, mais je pense que la foi, l'espérance, la dynamique, la volonté de regarder vers là où nous allons, vers ce que nous transmettons, vers ce que nous donnons, vers les générations qui nous suivent, c'est ça qui doit nous mobiliser et nous permettre de relativiser peut-être justement le passé ou de le repenser autrement. Parce que du coup, grâce à Éphraïm, la fructification, eh bien, on se détache de soi-même. Tant qu'on reste dans cette question de Manassé, on reste dans la question de se dire « alors j'oublie, mais j'oublie pas, mais en même temps je pardonne, mais je me souviens quand même, enfin c'est impossible ». Alors d'ailleurs, c'est ce qui se passe un peu avec Jacob. Vous savez, Genèse 48 nous explique que quand Jacob arrive, il voit ses petits-enfants et il dit « qui sont ceux-ci ? » C'est-à-dire qu'il ne les reconnaît pas. Alors, il ne les reconnaît pas peut-être parce qu'effectivement, c'était les premiers petits-enfants qui étaient nés hors du territoire d'Israël. Donc j'imagine que ces petits-fils, ils devaient avoir un look pas tout à fait qui correspondait à ce que Jacob aurait aimé. Ils devaient être habillés d'une manière égyptienne, ils devaient parler sans doute un peu l'égyptien, enfin, ses petits-enfants devaient lui être un petit peu étrangers. Et ça m'amuse aussi parce que j'en vois beaucoup, des grands-parents avec des petits-enfants qui leur sont quand même assez hétérogènes, en fait. Et Joseph, et donc Jacob dit, mais c'est qui cela ? On lui dit, c'est tes petits-fils. Ah bon ? Alors, du coup, Jacob est formidable, il dit, eh bien, ils sont à moi. C'est-à-dire qu'il les reconnaît, en quelque sorte. Enfin, il a du mal à les reconnaître, mais il les accueille, il les adopte, il les reçoit et il les bénit. C'est-à-dire qu'il est capable de reconnaître dans ce nouveau, qui est pour lui un peu dérangeant, parce que la nouveauté n'est pas toujours plus facile à admettre que le passé que nous trimballons. Il arrive à admettre cette nouveauté dérangeante et un petit peu étrange, comme la sienne, et il dit, d'accord, je l'adopte, je le prends, je les prends, ce sont les miens, c'est ce qu'il dit, c'est les miens, et je transmets. Savoir reconnaître le nouveau comme sien, et en même temps, donc, vous voyez, à ces petits jeunes là qui étaient un peu étranges, qui devaient écouter du rap en s'habillant avec des pulls à capuche, qui n'étaient pas tout à fait ce que Jacob aurait voulu, eh bien, il leur dit, ben, en même temps, je vais vous donner des racines. Parce que c'est ça la bénédiction que donne le grand-père. Il dit, je te transmets cette bénédiction que j'ai reçue moi-même d'Isaac et d'Abraham. Enfin, je te transmets cette bénédiction. Il y a cette transmission familiale qui doit avoir lieu. Et malgré les chocs du passé, de l'avenir, du futur, du passé, du présent, mais il y a cette transmission extraordinaire. C'est-à-dire que Jacob associe ses petits-enfants à la promesse de ses ancêtres. Et donc, vous disais-je, il ne s'agit pas d'aller enfermer dans ses racines, mais de donner quand même sa bénédiction et sa transmission. Et puis, cette histoire d'Éphraïm, la fructification traverse toute la Bible, savez-vous, puisque Effectivement, ça a été dit dans ce chapitre 48 de la Genèse, mais peut-être que vous n'avez pas entendu, c'est que Ephrata, c'est l'autre nom d'une ville qui nous est bien connue et qui est Bethléem. C'est d'ailleurs, c'est ce que dit la Genèse, mais c'est aussi ce que dit Michée dans ce passage qui est cité au moment d'histoire des mages, là, dans Matthieu. « Et toi, Bethléem, Ephrata, dit le Seigneur, tu es une ville peu importante parmi celles des familles de Juda, mais de toi je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. » On a encore tout là, la fécondité, l'origine, les temps plus anciens, et puis surtout ce Nouveau Testament qui donc va nous ouvrir sur une nouvelle histoire de fécondité qui est celle de la naissance de Jésus, et puis de notre propre fécondité, de transmettre et de donner au monde. Toute cette histoire où Ephrata est finalement justement, comme Éphraïm, celui qui nous libère du passé, mais sans faire rupture par rapport à lui. Comme Jésus a je dirais, créé le christianisme en quelque sorte, mais sans faire de rupture par rapport à l'histoire juive, ni à l'Ancien Testament, il reprend toute cette histoire, il en est l'héritier et il la réinterprète d'une façon extraordinairement fructueuse, vive et féconde. Et c'est ce que nous devons sans arrêt faire. Prendre, assumer le passé, le réinterpréter à sa sauce, dirais-je, ça c'est le secret de la vie et de la fécondité. Et Dieu nous permet de le faire toujours, parce qu'il est aussi celui qui nous ouvre des possibles, celui qui nous libère de la crainte de l'avenir, et qui nous donne les clés d'une fécondité éternelle qui nous permet de tout remettre en ordre. Donc finalement, oui, Jacob avait raison, c'est bien Éphraïm l'aîné, c'est bien lui la clé de tout. Toute notre vie pourra tourner, avancer debout si nous mettons d'abord la foi et l'espérance, c'est-à-dire notre visée, là où nous voulons aller, ce en quoi nous croyons, ce qui nous dirige. Et si on met cela d'abord avec Éphraïm, Ephrata, Bethléem, la naissance de Jésus, si on met tout ça en premier dans sa main droite, alors toute notre vie se remet dans le bon sens, tout ce qui doit être relativisé le devient, dans le passé comme dans le futur, et on peut être ainsi le père ou la mère d'une grande nation, comme le promet le prophète, comme le promet le patriarche. Amen.